Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, des filmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
Où étais-tu passé, toi? Hein? Va porter ce plateau et dépêche-toi.
Ça va, j'y vais.
Oh, j'en aime pas ce genre-là, on est sérieux ici, on est dans une maison honorable. Ce que j'ai ne te plaît pas? Oh, oh, tu voles, qu'est-ce qui te prend?
Oh, non, arrête! Oh, est-ce que vous allez vous arrêter? Qu'est-ce que tu as contre elle?
Je pense qu'une putain reste toujours une putain, quoi qu'il arrive.
Tu vois, je vais te tuer. Ah, salope! Qu'est-ce que tu as contre les putains? Pour qui te prends-tu? Ça suffit!
Au sommaire aujourd'hui, une spéciale Japon érotique. Et oui, le cinéma japonais érotique étant particulièrement mis en valeur via la sortie chez Carlotta Film de classiques nippons tels que L'Empire des Sens de Nagisa Oshima, qui sort en ultra collector accompagné en bonus de L'Empire de la Passion du même réalisateur, mais aussi du séminal La véritable histoire d'Abesada de Noboru Tanaka. Tanaka, qui voit également, toujours chez Carlotta Film, sortir l'une de ses œuvres notoires, confidentielles, Marché sexuel des filles. Dans la deuxième partie de l'émission, nous aborderons ces films en compagnie du critique de cinéma Stéphane Duménildo, auteur de La révolte de la chair, ouvrage présent dans le coffret Ultra Collector, mais également auteur de l'indispensable cérémonie au cœur de l'Empire des Sens, édité par le Lézard Noir. L'équipe de Culture Prohibée remercie Lucie Mautier pour son aide sur cette émission. Pour causer érotisme japonais, je suis aujourd'hui accompagné de Damien Demey, et oui, la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, co-animateur de Projection Perdue, le podcast de la Chimera Tech disponible sur YouTube. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également présent dans ce studio, un autre érotomane, Thomas Roland, dit le loup-garou picard qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglantes chroniques pour RCA. Salut Thomas.
Salut Jérôme, salut Damien et bien évidemment salut à toutes.
Chers amis, eh bien figurez-vous que Carlotta Film nous gâte, et oui, et gâte tous les amateurs d'érotisme, et encore plus quand on est amateur d'érotisme japonais. Dans cette émission, on a déjà discuté avec plusieurs intervenants autour du roman porno, du Pinku Eiga. Il y avait eu déjà des films sortis chez d'autres éditeurs. Et là, il se trouve que Carlotta a décidé de sortir un véritable classique. Alors, c'est un choix gonflé quand même de sortir ça dans un coffret ultra collector, ce classique quand même du cinéma, qui est aussi un film pornographique, il faut le dire, et qui s'appelle donc L'Empire des Sens de Nagisa Oshima. Le tout restauré en 4K, comme tous les films présents dans ce coffret. Une édition absolument magnifique, hein, puisqu'elle contient alors L'Empire des Sens, évidemment, dont on va reparler dans quelques minutes. Elle contient également un documentaire sur l'histoire du film, La Passion selon Eiko Matsuda, hein, donc un entretien inédit avec Tomuya Endo, qui est chanteur japonais et historien du cinéma, dirigé par Stéphane Dumenildo. 6 scènes coupées. Un documentaire de David Thompson et Serge Julie qui s'appelle « Il était une fois l'Empire des Sens » et la bande-annonce originale. Et puis il y a un deuxième disque, un disque de suppléants, mais alors pas des moindres, puisqu'on peut découvrir la véritable histoire d'Abe Sada de Noboru Tanaka, qui est un film de 1975, donc qui sort juste un an avant l'Empire de la Passion et qui s'inspire de ce fait divers, hein, qui a passionné le Japon, on va en reparler dans quelques minutes, et qui est donc, un fait divers autour de cette femme qui s'appelle Abe Sada. Et puis également, il y a L'Empire de la Passion, qui est une sorte de... un film de 78 de Nagisa Oshima, qui est une sorte de, j'ai envie de dire, de décalque inversé un peu du premier film d'Oshima présent dans ce coffret, à savoir L'Empire des Sens, et avec là encore quelques petits suppléments, hein, des images de tournage, un petit documentaire qui s'appelle Cine Eros Made in Japan, et puis des bandes annonces originales, et puis bien évidemment le clou de tout ça, en plus des films, c'est La Révolte de la chair, qui est le livre qui accompagne cette édition, qui est signé Stéphane Dumenildo. Mais avant d'en discuter avec Stéphane Dumenildo, hein, qui est un grand spécialiste du cinéma asiatique et en plus de Nagisa Oshima, on va vous donner un peu notre ressenti, notre avis sur ces films. Alors ces films qu'on connaît bien, qu'on n'a pas découvert là, qu'on redécouvre, qu'on revoit avec des copies quand même, parce que quand je pense à La Véritable Histoire d'Abe Sada de Noboru Tanaka, bon là, la copie qui est proposée est bien supérieure à ce qui avait été édité en DVD. Alors, il faut savoir que Abe Sada, c'est quand même quelqu'un qui, très jeune, a été violé, donc elle a perdu son honneur, qui a été prostituée et qui est tombée amoureuse en fait de ce tenancier un peu volage de l'hôtel auberge où elle travaillait, quoi, voilà. Et Abe Sada, elle va vivre avec ce tenancier, ce Kishizo. Elle va vivre une histoire d'amour complètement dingue, une passion. Ils vont s'aimer à la folie. Et puis, bon ben, lors d'un jeu sexuel, il va mourir, Kishi, sous le coup d'une strangulation en fait. Et elle va couper son sexe pour le conserver, le garder près d'elle. Et puis elle sera arrêtée, voilà. Et à partir de là, alors cette femme va déchaîner les passions au Japon, en fait, hein. Le fait divers va passionner, en fait, le Japon. Et c'est cette histoire que choisit donc Nagisa Oshima. Du coup, la Nikkatsu va s'empresser de produire La Véritable Histoire d'Abe Sada, histoire que ça sorte juste un an avant, film de Noboru Tanaka. Le film très différent du film d'Oshima, hein, c'est un film, j'ai envie de dire, presque mystique, qui est presque abstrait par moments. Écoutez Culture Prohibée spéciale Japon érotique.
la grosse différence que je fais avec le film de Nagisa Oshima, c'est que j'y vois un traitement beaucoup plus réaliste dans le film de dans l'Empire des Sens, au niveau de la photographie, mais aussi à la fois réaliste, mais aussi quelque chose qui sonne assez artificiel, parce que le film est quasiment tourné qu'en studio, à part à l'exception peut-être de deux ou trois plans comme ça pour faire des articulations, mais le film n'est tourné quasiment qu'en studio. Il y a quand même ce côté enfermement quelque part aussi, même s'il y a des gens qui rentrent dans la pièce, même si parfois on les voit en extérieur, notamment dans la cour d'une maison, ou alors je pense à ce plan où le personnage marche dans la rue, et je pense que c'est une thématique qui rejoint aussi l'Empire de la Passion. Le personnage marche dans la rue et croise des soldats. Et là, pour moi, le personnage, c'est un personnage qui est anticonformiste. C'est pour symboliser l'anticonformisme du personnage et aussi la façon dont la société japonaise juge cette femme-là. Et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans l'Empire de la Passion. Ça, ce poids du regard de l'autre, ce poids de la pression sociale que Nagisa Oshima traite dans ce film-là. Mais moi, personnellement, j'ai quand même une préférence pour l'Empire de la Passion.
Moi, je me range du côté de Thomas. Pour le coup, je préfère l'Empire de la Passion. Alors, l'Empire de Sens est très bien. Là où ça va beaucoup jouer, c'est aussi la sensualité. C'est que tu as beaucoup moins de sexualité dans l'Empire de la Passion que dans l'Empire des Sens. Mais j'aime bien cette histoire de fantôme, finalement, qui revient hanter pas seulement le couple qui a commis le crime, mais au final, tout ce petit village qui partage des gossips autour de tout ce qui arrive. Et c'est peut-être ce côté, enfin, plus film de genre qui ressort, qui m'a plu, mais ce qui est intéressant, c'est justement la mise en parallèle où l'Empire des Sens, c'est une histoire vraie, c'est un fait divers dans un contexte du Japon qui va rentrer dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est pour ça que le passage avec les soldats, c'est un passage aussi que j'aime énormément, où les hommes avancent tête fière, ils vont partir à la guerre, ils représentent la fierté du Japon, alors que lui est dans son microcosme, un peu errant dans cette finalement passion et folie qui le dévore charnellement. Et dans l'Empire de la Passion, tu as en effet ce contexte de tout retombe un peu sur la femme alors que les deux sont coupables. C'est peut-être lié au contexte dans lequel il fait le film Oshima, qui est que tu as eu le procès ou tu as le procès en même temps de l'Empire des Sens, où c'est indirectement Abesada qui finalement se reprend tout ce qu'elle a déjà vécu en plein visage. Oshima arrive à refaire sortir finalement ce passé qui hante indirectement le Japon, peut-être son passé charnel.
Je voulais aussi qu'on parle d'un autre film de Noboru Tanaka qui sort aussi chez Carlotta Film. Dans les bonus, on retrouve également Stéphane Dumenildo. Et c'est un film de 1974 qui s'appelle Confidentiel marché sexuel des filles, avec Meika Seri, qui raconte l'histoire d'une femme forte, d'une prostituée de toute gamine de 19 ans. Et qui vit avec sa mère, qui est également prostituée, avec son frère qui est handicapé mental. Mais elle décide de travailler à son compte, de s'affranchir de tout ça. Et ça va donner un film qui est une sorte de prolongement. Alors, trash, évidemment, mais on n'est plus... On n'est pas à la même époque non plus, du film de Mizoguchi, La rue de la honte. Le film de Tanaka m'a quand même, moi, grandement surpris, marqué. Déjà, il y a cette actrice principale dont on sait qu'elle traînait la réputation un peu d'être toxicomane, elle le porte sur elle, qui avait vraiment été une prostituée. Elle est très, très marquée quand même, bien qu'elle soit très jeune. Mais elle est extraordinaire, parce que c'est du vécu, quoi, ce qu'on voit dans le film. Et il y a aussi le choix du noir et blanc, avec un moment, une bascule dans la couleur, un moment très crucial du film, et un moment aussi très ironique, qui est très drôle en vérité, qui est une sorte de... un humour très très noir, je vous en dis pas plus, qui est très cruel en fait, et pour rebasculer ensuite dans le noir et blanc. C'est un film qui a une vraie ambition esthétique, qui est un roman porno, donc il y a des scènes de sexe toutes les 10 minutes, et qui montre à quel point Tanaka, au sein d'un système quand même de studio qu'il contraignait à faire de la série B, vite faite, bien faite pour les petites salles de cinéma, arrive à tirer son épingle du jeu et avoir un vrai discours de classe et un vrai point de vue sur la marginalité qui vient en opposition en fait à ce Japon en pleine expansion et le développement de ce qu'on va appeler plus tard les salarymen.
Le point qui me plaît le plus dans ce film, c'est les trois personnages féminins qui sont dans l'héroïne. Sa mère, qui aussi qui fait le même travail qu'elle et qui se pose un peu en rivale, et une nouvelle venue qui va se retrouver obligée de travailler également sur le trottoir. Et la particularité, c'est que j'y vois un peu un triptyque temporel où l'héroïne représente le présent, sa mère représente le futur qu'elle va avoir, et la nouvelle venue représente un peu son passé. Et au final, on nous dépeint un très bas quartier où meurent les rêves et les êtres humains, mais dans le sens où ils y perdent au final leur humanité.
Nous allons maintenant aller à la rencontre de Stéphane du Ménildo. Donc Stéphane du Ménildo, tout de suite au micro de Culture Prohibée. Bonjour Stéphane du Ménildo.
Bonjour Jérôme.
Nous sommes donc avec Stéphane du Ménildo, qui est l'auteur de La révolte de la chair, donc un passionnant ouvrage qui accompagne le coffret ultra collector que Carlotta Film consacre à l'Empire des sens de Nagisa Oshima. Alors Stéphane du Ménildo, tout d'abord, comme vous le rappelez dans votre ouvrage, Abesada, c'est d'abord un véritable fait divers qui a vraiment passionné les Japonais, qui continue d'ailleurs. C'est l'histoire d'une femme bafouée qui, alors c'est au choix, en tout cas, aurait vécu une passion destructrice avec Kishizo Ishida, ou alors certains l'interprètent aussi comme une vengeance contre la gente masculine. En tout cas, c'est une femme incroyable qui a eu une destinée totalement hallucinante. Elle a même fini par jouer pour Teruo Ishii quand même, donc c'est assez démentiel, la vraie vie d'Abesada.
Alors moi je pense non que c'était pas une vengeance, puisque à son procès, enfin les minutes de son procès dont sont tirés les deux films, L'Empire des Sens et La véritable histoire d'Abesada, elle ne cesse de rappeler l'amour qu'elle avait pour Kichizo. C'était pour elle, cet amour était une sorte de rédemption en tout cas, ou de rétribution d'une vie, comme vous l'avez dit, qui était une vie vraiment à la fois abominable et puis sûrement très... très conforme à la vie de certaines femmes japonaises de cette époque. Donc elle a eu une vie, elle s'est fait violer à 14 ans, puis elle a eu une dégringolade sociale, elle a travaillé comme geisha, comme prostituée, jusqu'à ce qu'elle raconte, elle rencontre Akichi, qui était vraiment l'homme de sa vie.
Elle va finir par rencontrer donc un cinéaste donc qui s'appelle Nagisa Oshima. Enfin, Nagisa Oshima va finir par traiter son histoire. Nagisa Oshima, vous le rappelez, c'est, alors on en a déjà parlé dans cette émission, mais c'est vraiment un enfant terrible de la nouvelle vague qui abandonne tout, ferme sa propre société de production et à l'époque se tourne vers la France et le producteur Anatole Doman. Et on a l'impression que le fait d'avoir voulu redémarrer à zéro, c'est il se radicalise encore plus. Il allait pourtant loin, mais là, il se radicalise encore plus. D'ailleurs, vous citez la note d'intention de Nagisa Oshima, qui est carrément de faire un porno. Et il sait très bien que faire un porno, ça va évidemment lui amener beaucoup d'ennuis.
Oui, bien sûr, c'est un homme en guerre contre le Japon. Et contre une mentalité conformiste. En gros, il considère que le gouvernement japonais, qu'une sorte d'occidentalisation du Japon a châtré les Japonais de leurs désirs. Et donc, pour lui, l'Empire des Sens est vraiment une arme de guerre. Donc, c'est un peu comme un groupe révolutionnaire qui aurait sa base d'armement en France et qui déciderait vraiment de mener la guerre contre la censure japonaise.
Et d'ailleurs, l'histoire, en fin de compte, est assez dingue, puisque Nagisa Oshima, il va, pour faire ce film, s'associer avec une autre légende, c'est Koji Wakamatsu, roi du Pinku Eiga, qui a débuté en travaillant avec les Yakuza, proche de l'armée rouge japonaise. D'ailleurs, l'un de ses derniers films est un incroyable film sur l'armée rouge japonaise. Il va travailler avec lui. Alors, peut-être nous présenter qui est Koji Wakamatsu, et puis nous dire, en fait, comment ils ont travaillé sur ce film, parce qu'ils ont dû travailler en toute clandestinité.
Alors oui, Koji Wakamatsu, on l'appelait l'empereur du Pink. C'est une sorte de franc-tireur qui commence au début des années 60 à réaliser donc du cinéma pink, qui est un peu l'ancêtre des romans porno, ou en tout cas les premiers vrais films érotiques japonais, qui sont des séries B tournées en quelques jours en noir et blanc. Et Wakamatsu, lui, il a une vocation politique. C'est un marxiste. Donc oui, il est un yakuza. Ce qui est amusant, c'est que lorsqu'il était à Yakuza, il s'occupait en gros des autorisations de tournage à Shinjuku. Donc il avait quand même un pied un tout petit peu dans le milieu du cinéma, et il est envoyé en prison pendant quelques mois, et là il se convertit au marxisme. Et donc quand il ressort, il arrête ses activités criminelles et il essaie de trouver une façon de faire passer ses idées révolutionnaires. Il se dit ça va être le cinéma. Il va réaliser donc des films qui vont être à la fois des films érotiques et à la fois des films politiques. Alors pour vous donner une image d'un plan un peu symbolique de Koji Wakamatsu, on a un couple, mettons, d'étudiants qui fait l'amour dans un coin, et puis on a un autre qui commence à débiter, à égrener des théories marxistes au premier plan. Voilà, ça c'est un peu le plan typique de Wakamatsu, qui était aussi un admirateur de Godard. Voilà. Et Wakamatsu, donc il réalisait des films extrêmement vite. Ça lui arrivait d'aller filmer des manifestations et de les intégrer dans les génériques de ses films, ou alors il donnait carrément les caméras à des étudiants, à des jeunes révolutionnaires qui filmaient à l'intérieur des affrontements du mai 68 japonais, et qui pouvaient aller voir une semaine ou 15 jours plus tard les images qu'ils avaient tournées en ouverture d'un film Pink. Donc c'était une sorte de cinéaste underground, tout à fait expérimental, visionnaire. C'est un véritable génie, Wakamatsu. Et donc, oui, ils connaissaient bien Oshima, puisqu'ils allaient boire dans les mêmes bars à Golden Guy, qui est un petit quartier de bar de Tokyo. Et ils se connaissaient assez bien. Alors bon, Wakamatsu, lui, il ne prenait pas très au sérieux parfois Oshima, qui était un dandy, qui allait regarder un peu de loin les manifestations avec des complets en lin blanc, par exemple. Et donc, mais ils avaient quand même un respect l'un pour l'autre. Dans les années 60, Oshima, il va changer sa façon de faire du cinéma. Il va faire un cinéma plus direct, plus en noir et blanc aussi, plus agressif sexuellement, en s'inspirant quand même beaucoup de Wakamatsu. Donc, on peut dire que Wakamatsu, c'est un peu il fait partie de la nouvelle vague japonaise, d'une certaine façon. Et donc, lorsqu'il s'agit de tourner l'Empire des Sens au Japon, mais de façon clandestine, pour dissimuler le fait que c'était un film avec des scènes sexuelles explicites, il a fait appel à Wakamatsu pour qu'il devienne son producteur exécutif. Et Wakamatsu, en plus, devait trouver de l'argent pour commencer le tournage. Et donc, il a fait appel à ses connaissances, à un usurier. Donc, un usurier, c'est-à-dire quasiment un yakuza. Voilà. Donc, c'est un couple de cinéastes qui est quand même très, très amusant.
Et en même temps, c'était presque inévitable qu'ils se rencontrent, en fin de compte, ces deux-là.
Bien sûr. Vous savez, le cinéma dans les années 60... au Japon, en tout cas à Tokyo, c'était dans un petit périmètre où tout le monde se rencontrait, à la fois les acteurs de films pink, les acteurs de série B de films de Yakuza, dont vient Tatsuya Fuji, l'interprète de Kichi, les acteurs de pièces de théâtre d'avant-garde, comme ceux de Terayama, dont vient l'actrice Eiko Matsuda. Les cinéastes de studio comme Seijun Suzuki, les cinéastes de Pink comme Wakamatsu, et les cinéastes de Nouvelle Vague comme Oshima. Tout ça devait se jouer sur une centaine de mètres carrés en réalité. Hein. Tout le monde allait boire dans les mêmes endroits le soir.
C'est sans doute ce qui explique aussi que ce cinéma japonais, pour moi, il entretient beaucoup de points communs avec le cinéma italien de la même époque, c'est-à-dire une sorte de dinguerie. C'est-à-dire que dans le cinéma japonais, vous allez avoir des auteurs très puissants qui vont, mettre en scène des films absolument passionnants. Mais quand vous allez jusqu'au plus petit produit, le plus bis possible, vous avez là aussi des cinéastes passionnants et qui vont avoir des propos qui peuvent être très subversifs, et à l'image de Wakamatsu d'ailleurs.
Oui, c'est un peu comme Cinecittà dans les années 60-70, en réalité, où Mario Bava et Fellini se connaissaient. C'est un peu la même chose, sauf qu'il n'y a pas de Cinecittà, mais c'était un quartier de bar, par exemple.
Vous écoutez Culture Prohibée.
À l'instant, Stéphane Duménildo, auteur de La révolte de la chair qui accompagne le coffret Ultra Collector consacré à l'Empire des Sens par Carlotta Film. Le tournage a fait que derrière, ça a été comme un droit d'honneur adressé à la censure et que Nagisa Oshima s'est retrouvé en procès. Alors, c'est même un double procès, vous l'expliquez. Hein. Et c'est un procès, en fin de compte, incroyable parce que ça permet à Oshima d'affronter ses ennemis avec quand même beaucoup de vaillance et de l'autre côté aussi de réhabiliter Abe Sada dont quand même l'histoire avait été exploitée de manière plus ou moins correcte, on va dire ça comme ça.
Oui, disons que le procès ne porte pas sur le film en réalité puisque le film a été censuré, c'est-à-dire qu'il est sorti dans très peu de salles. Et puis, surtout, on l'a caviardé, on a placé des caches noires immenses sur les sexes, sur les scènes explicites, etc. Donc le film, finalement, il n'y avait aucun procès à lui faire, puisqu'il était, sorti censuré. D'ailleurs, l'anecdote, c'est que la seule fois où l'Empire des Sens a été projeté non censuré au Japon, ça a été à la douane, en réalité. À la douane où il était projeté devant 50 personnes qui étaient des douaniers, des membres de la censure, etc. Mais donc, en fait, il a été attaqué avec un prétexte en fait absurde qui était sur le scénario du film, donc sur un livre publié avec quelques photos, un cahier photo dont quelques-unes on voyait, mais de façon extrêmement, extrêmement allusive, en fait, les poils pubiens de l'actrice. Alors parce que donc les poils pubiens, les sexes et les poils pubiens ne doivent pas être filmés dans les films japonais. Voilà, c'est un point de censure assez infranchissable. Et donc on a attaqué Oshima sur le scénario, ce qui est totalement, totalement absurde. Mais d'une certaine façon, Oshima voulait peut-être ce procès, en fait. Il voulait, voyant que le film était sorti absolument caviardé, finalement, il voulait remettre en scène l'idée de la censure, et je pense que le procès, même si ça l'a affaibli, même si le procès était extrêmement long, c'est aussi quelque chose c'était son champ de bataille, en fait.
Et Nagisa Oshima aussi, vous l'écrivez dans le livre, dans l'Empire des Sens, chaque acte du quotidien, ce que vous écrivez à travers l'apologie de la sexualité du couple maudit, est une cérémonie. Et Nagisa Oshima, au fond, moi j'ai pas vu tous ses films, mais j'en ai vu quand même pas mal. Je me dis que c'est un cinéaste qui est obsédé, comme beaucoup de cinéastes japonais d'ailleurs, mais par la question de la cérémonie, qui revient en fin de compte assez souvent dans sa filmographie. Alors évidemment, on peut penser à La Cérémonie aussi, mais La Pendaison, et puis il y a des moments aussi dans tous ses films, même dans L'Empire des Sens, il y a un moment, une sorte de détournement de la cérémonie du thé, enfin on peut dire ça comme ça. C'est quand même un cinéaste de la cérémonie, quand même, Nagisa Oshima.
D'ailleurs, avant d'écrire le livre du coffret, j'avais écrit 2 ans avant un livre qui s'appelait « Cérémonie au cœur de l'Empire des Sens », qui était publié par les Arts Noirs, où je revenais sur cette idée justement de la cérémonie. Alors bon, la cérémonie d'amour et de mort dans l'Empire des Sens, bien sûr, où en fait chaque acte sexuel est une cérémonie, est une apologie de la vie, jusqu'à ben, la scène de strangulation et d'émasculation, qui entre aussi dans un cadre cérémoniel. Mais pour Oshima, c'était assez clair, parce qu'il disait que oui, que les Japonais étaient très ancrés dans l'idée de la cérémonie, voilà. Alors ça allait jusqu'au suicide rituel, hein, au seppuku par exemple, au hakiri, mais aussi une façon qu'avait la société de se remettre tout le temps en scène, en fait. Et lui, bon, il revenait aussi sur des cérémonies païennes, aussi les cérémonies, même remontons avant l'ère Edo, les cérémonies paysannes, des moissons, qui étaient aussi des cérémonies sexuelles. Donc pour lui, la cérémonie lui permettait de revenir à une sorte de pensée magique, shinto, remontant vraiment aux temps les plus anciens du Japon. Et donc, ce qui lui permettait aussi de combattre la censure, en disant voilà ce que vous me reprochez est en fait quelque chose qui vient vraiment, qui est vraiment l'âme japonaise en réalité, et non pas des processus ou des effets de censure qui sont en fait qui étaient pour les Japonais une façon de se conformer aussi aux mœurs occidentales.
C'est ce côté de Nagisa Oshima, ce côté qui flirte avec le mystique, est encore plus présent, moi je trouve, dans, évidemment, via la figure du fantôme dans l'Empire de la Passion, qui est un film peut-être plus proche du cinéma de genre classique, qui mélange un peu le film noir, le fantastique, qui est très différent et d'ailleurs qui n'est pas pornographique, mais qui pourtant dialogue réellement avec l'Empire des Sens.
Oui, ça c'est le film qui tourne après l'Empire des Sens, donc l'Empire de la Passion. Il le tourne alors qu'il est en plein procès, donc il va pas refaire un film pornographique, déjà parce que je pense qu'il pensait avoir tout dit déjà, hein, dans l'Empire des Sens, donc ça deviendrait à ce moment-là un truc commercial qu'il n'a pas envie de faire. Et puis c'est vrai qu'il va aller vers le fantastique, vers ce qu'on appelle les kaidan ega, les histoires surnaturelles, et les yurei ega, les films de fantômes. Et d'ailleurs, il va reprendre quasiment toute l'équipe technique d'un très très beau film de Kobayashi qui s'appelle Kaidan, qui est un recueil d'histoires fantastiques, d'histoires de fantômes. Donc là, c'est vrai qu'il revient une tradition japonaise. Et oui, c'est un très très beau film, L'Empire de la Passion, en effet.
Alors, je vais revenir à l'Empire des Sens, j'ai un peu digressé, je fais ça tout le temps, je suis désolé. L'Empire des Sens, donc, on vous racontait dans le livret qui accompagne donc l'Ultra Collector, hein, paru chez Carlotta, que le film, du coup, fait l'ouverture à la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes en 1975, et vous écrivez « C'est l'émeute ».
Ah oui, 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 c'est l'émeute, hein. Tout le monde veut voir ce film, en fait. C'est le premier film d'auteur pornographique, ou film d'auteur avec des scènes explicites en tout cas. Et donc, tout le monde veut voir ça parce que c'est pas comme aller voir un porno. Là, on sait qu'on va voir un film qui va être à la lisière des deux catégories, c'est-à-dire un film où on verra réellement les acteurs faire l'amour et en même temps un film qui se pose comme un objet esthétique extrêmement, extrêmement abouti. Et donc oui, c'est l'émeute, il y a plusieurs, on est obligé de rajouter des séances, les gens manquent de mourir étouffés dans le couloir du cinéma Le Star à Cannes, et ça fait un coup de pub évidemment monumental au film. C'est l'année où Taxi Driver a la Palme d'Or, voilà, pour situer un peu.
Où d'ailleurs le personnage se rend aussi dans un cinéma pour voir un film porno. Comme quoi, c'est un sujet qui traversait à l'époque la société, la pornographie, qui était vraiment un sujet prégnant, puisque c'est aussi les Gérard Damiano, tout ça, qui reçoit un soutien des stars et tout. Donc à la limite, c'est presque pas étonnant d'ailleurs que Oshima se soit engagé dans ce genre, quoi.
En fait, c'est au début, lorsque Anatole Dauman lui dit « Vous allez réaliser un film pornographique », en fait, il ne doit pas lui dire ça. Je crois que c'est Oshima qui confond quelque chose, en fait, dans ses souvenirs. C'est-à-dire que Dauman ne va pas lui dire « Réalisons un film pornographique » vu qu'à l'époque, la pornographie est censurée. Voilà. Il a dû lui dire « Tournons un film érotique » parce qu'il avait réalisé il y avait les contes immoraux de Borowczyk qu'il avait produits. Et donc, il veut sûrement lancer une série de films érotiques d'auteurs. Mais au même moment, au Japon, il y a les romans porno japonais, qui sont des films érotiques, ils n'ont rien de pornographique. Et donc, je pense qu'Oshima, il pense roman porno, ou quelque chose comme ça. En tout cas, au début des années 70, lorsque Dauman lui propose ça, Dauman ne peut pas lui proposer un film pornographique. Mais ensuite, la pornographie en 75 est libérée. Et donc, c'est là où Oshima et Dauman décident d'aller à fond, d'aller dire bah non, on ne va pas faire de l'érotisme. L'érotisme, c'est ringard, c'est dépassé, on fait vraiment de la pornographie. Et donc voilà, c'est comme ça qu'à mon avis, le projet, la nature du projet évolue. Et lorsque le film est projeté à Cannes, lorsqu'il va sortir, il y a à nouveau l'effet de censure, c'est-à-dire le X, qui réserve le cinéma porno non plus aux grandes salles des Champs-Élysées, là où il sortait, il sortait dans tous les cinémas, mais au ghetto, c'est-à-dire à des salles qui sont surtaxées. Et Dauman, là, il va devoir manœuvrer, c'est un grand stratège, pour sauver quand même l'Empire des Sens, parce qu'évidemment, on ne va pas projeter l'Empire des Sens entre « je suis à prendre » et « faites-moi jouir ». Donc là, il faut qu'il ait des appuis culturels. Alors là, il va y aller à fond, il va inviter le secrétaire d'État à la culture, Michel Guy, à manger, il va faire des projections de prestige privé avec Alain Cuny, avec Roland Barthes. Il va appeler le film aussi l'Empire des Sens, quoi, en référence à l'Empire des Signes. Donc il y a tout un bouclier culturel que Anatole Dauman met en place pour que le film vraiment prenne un statut très très particulier d'œuvre d'art.
Vous écoutez le critique de cinéma Stéphane du Ménildo au micro de Culture Prohibée. Écrivez dans le livre, le final détourne le drapeau japonais, j'aime beaucoup cette formule, oui, pour faire de l'émasculation de Kishi le soleil rouge de l'empire de Saada. Et moi, cette scène, elle me renvoie aussi à une autre scène, en fait, cette scène du viol de Meiko Kaji dans le premier film de la série de la femme scorpion, où justement, c'est pareil, on la viole, on prend sa virginité, et ça fait cette tache rouge sur le drapeau blanc japonais, évidemment. Alors là, on est dans un cinéma plus bis, plus du cinéma de genre, que j'adore,
hein, d'ailleurs. Hein. Et c'est là qu'on voit le lien quand même, enfin, ça traverse toute la société japonaise. Les préoccupations d'Oshima sont vraiment les préoccupations de toute une société. Il y a, les femmes subissent des choses terribles dans la société japonaise. C'est ce que disent tous ces metteurs en scène, en vérité.
Oui, oui, bien sûr. Bah, il y aura sûrement un montage très amusant de toutes les récurrences du drapeau japonais dans le cinéma japonais, hein, avec les taches de sang, ce genre de choses. Le cinéma a toujours eu une fonction, en tout cas au Japon, d'apporter une sorte de justice en fait, à ces femmes bafouées, torturées, que ce soit dans les films de fantômes, où les spectres féminins reviennent hanter leurs meurtriers, qui sont des hommes de pouvoir, des samouraïs par exemple, ou alors en effet dans des films comme Elle s'appelle Scorpion, où la femme est soumise à toute une série de mauvais traitements sadiens dans des prisons de la part de bourreaux, de gardiens extrêmement sadiques, etc. Oui, en effet, et Sada, elle s'inscrit là-dedans. Alors, elle ne va pas se révolter réellement, mais elle va construire un empire qui va être un empire, un petit empire, hein, qui est juste une chambre d'hôtel, mais en fait un empire qui est un empire de vie, d'amour, contre l'empire de l'empereur Hirohito, qui est un empire de mort et de guerre.
Il y a un autre film aussi sur Abe Sada, enfin, le sujet a été beaucoup traité, mais qui là est disponible dans le coffret en bonus, c'est La véritable histoire d'Abe Sada, d'un des maîtres du roman porno, d'ailleurs on en parlera après pour un autre film édité par Carlotta, mais de Noboru Tanaka, qui est un traitement différent. Alors je ne sais pas si à l'époque ça a été fait de manière opportuniste par la Nikatsu, parce qu'il fallait sortir un film sur Abe Sada avant peut-être le film événement d'Oshima, mais quoi qu'il en soit, le film est lui aussi passionnant. Alors c'est un film qui était déjà sorti en DVD, mais là la copie est vraiment magnifique. Et on est presque plus proche d'Abe Sada, par contre, dans cette version qui n'a pas la puissance de la version d'Oshima, mais je trouve qu'elle est parfaitement incarnée par l'actrice qui a un côté là presque plus mystique, j'ai envie de dire.
Oui, en effet, Joko Miyashita, qui est une des grandes actrices du roman porno, mais on va dire plutôt du cinéma japonais des années 70, elle a ceci qu'elle ressemble physiquement à Abe Sada. Alors que Eiko Matsuda dans Le Père des Sens ne lui ressemble pas tellement, mais vraiment elle lui ressemble. Et disons que si elle avait, il était hors de question qu'une actrice comme Junko Miyashita passe au porno, au réel porno. En fait, hein, elle était une actrice de cinéma érotique, elle ne serait jamais allée au-delà. Voilà, c'est là où se situe en fait la frontière entre les deux actrices. Il y en a une qui va. De façon extrêmement simple et franche, franchir vraiment cette ligne, et l'autre qui va rester à la lisière. Mais c'est un très beau film aussi, c'est un film très, très mélancolique, c'est une sorte de balade triste en fait. Et en même temps, Tanaka, qui est un cinéaste aussi plein de style et très flamboyant, il va inventer des choses comme par exemple isoler son couple. Dans la chambre d'hôtel, mais en fait comme si c'était au centre d'une galaxie extrêmement sombre, comme si c'était vraiment perdu dans le cosmos. Il va aussi remplir le sol d'eau rouge, en fait de sang, comme si tout le sang de Kichi s'était déversé sur le sol de la chambre d'hôtel d'auberge. Donc c'est un film assez remarquable. C'est un des plus beaux films de Tanaka aussi.
Autre film de Tanaka là, qui sort chez Carlotta Film. D'ailleurs, Stéphane Dumenildo, vous intervenez hein, dans un bonus qui s'appelle Pampang Girl, si ma mémoire est bonne. Ce film, c'est Confidentiel, marché sexuel des filles. Alors évidemment, bon, quand on aime le roman porno, on aime beaucoup Tanaka, c'est un des maîtres hein, du roman porno. Il signe un film, alors... assez étonnant. Pour moi, en fait, je le vois comme une sorte de prolongement à La rue de la honte de Mizoguchi, qui est un film qui est toujours aussi impressionnant aujourd'hui. Hein. Et je trouve que ce film-là, sous ses airs de roman porno, de film d'exploitation, on va dire, fait, par son utilisation du noir et blanc, par la personne, qui est le personnage principal, qui en plus, cette actrice n'est pas n'importe qui, vous le rappelez dans les bonus, c'est une actrice qui a connu une vie assez complexe, assez compliquée, qui est assez marquée, fait que, En plus, l'utilisation de la couleur à un moment, enfin, j'en dis pas plus pour pas dévoiler le film à nos auditrices et auditeurs, fait que pour moi, Confidentiel marché sexuel des filles, alors s'il est un film assez dépressif, en fait, au fond, est un film, un des meilleurs de Tanaka également.
Oui, c'est vrai que Tanaka, on pourrait faire une ligne de cinéaste, une lignée de cinéastes japonais qui partirait de Mizoguchi, qui irait vers Masumura aussi, et qui aboutirait à Tanaka. En fait, ce sont des cinéastes qui sont extrêmement conscients et intéressés par la condition féminine. Et Tanaka, il va faire des films sur les geishas de l'Eredo, il va faire des films, un très beau film qui s'appelle Nuit féline à Shinjuku, qui est un film sur les soplands, c'est-à-dire un peu les salons de massage, où il va vraiment, là c'est vraiment un héritier de la rue de la honte, hein, puisqu'il va s'intéresser à cette petite communauté marginale. Et chaque fois, il apporte vraiment un soin très, très particulier à décrire ses vies marginales. Et oui, dans Confidentiel, donc là, on est à Osaka, dans un bidonville. Et donc, il va montrer comment au cœur de quasiment ce qui est le lumpen, quoi, le plus bas degré de la société, il peut y avoir aussi une forme de liberté, hein, que ces gens-là n'appartiennent pas à la société qui est en train de devenir la société de la consommation, espèce de miracle économique japonais qui va gonfler jusqu'aux années 80, 90 et qui va finir par exploser. Là, on a des gens, ils vivent de rien, ils vendent leur corps, ou ils sont dans des trafics, mais ils ont quand même aussi une forme de fierté et de liberté. Et le film est en effet tout à fait hallucinant. Quand on est vraiment, c'est à la fois très violent, très glauque. L'actrice qui est une sorte d'abessada en vrai, en réalité, hein, c'est-à-dire une fille qui est arrivée dans le cinéma un peu par hasard, en passant par la prostitution, qui était assez droguée, ça se voit un peu hein, quand on la regarde. Bref, et qui a disparu ensuite. Donc elle est, oui, on voit une sorte de film néo-réaliste avec quasiment des personnages qui font partie de ce milieu-là.
Et puis c'est aussi un film très politique, parce que bon, on voit avec ces foules de gens qui se déplacent pour aller au travail, le magma un peu de ces, ce qu'on peut rappeler de ces salariés, voilà, qui ce monde en fait qui n'est pas celui de ces prostituées qui vivent en plus dans une promiscuité hallucinante. Il y a plusieurs générations qui tapinent ensemble et qui font l'amour dans la même pièce. Enfin, c'est complètement, ça peut nous paraître à nous hallucinant, mais c'est la pauvreté, c'est comme ça. Et on sent que ces deux mondes qui cohabitent, il y a un vrai discours de classe. Et d'ailleurs, à la fin du film, il y a une possibilité pour l'héroïne de changer, de s'extraire de ce lumpen prolétariat. Et en fait, non, elle le refuse, quoi.
Non, elle le refuse. Elle préfère rester. Elle préfère rester là où elle est, dans sa communauté, même si c'est une communauté qui est extrêmement dure, qui est atroce par certains côtés. Ben elle assume de faire partie d'un ghetto, en fait. Mais ça, oui, ça c'est oui, les Tanaka, c'est absolument passionnant. Si on prend la fin de Nuit féline à Shinjuku, il y a une très belle scène où un couple, vraiment un couple qui est né dans les Shinjuku, à Kabukicho, donc le quartier de la prostitution, se retrouve au petit matin et regarde se lever les rideaux métalliques des banques, en fait, et s'effondre, en fait. Hein. C'est comme si le rideau métallique qui se levait les faisait tomber, quoi. Oui, le roman porno est une autre nouvelle vague qui apparaît dans les années 70, puisque c'est le moment où la Nikkatsu décide de passer à la pornographie, puisqu'elle est en crise, hein, elle est quasiment faillite, donc elle va aller chercher le genre qui marche le mieux, et c'est le cinéma érotique, donc qu'on rebaptise roman porno, et donc ils ne vont quasiment plus tourner que ça, c'est complètement dingue, hein. C'est comme si on imaginait la Gaumont en faillite, qui disent, on va faire du porno, voilà. Parce que la Ducato, c'est quand même l'équivalent de la Gaumont. Enfin, c'est une très, très ancienne maison de production. Et donc, évidemment, plein de cinéastes ne veulent pas faire ça, donc s'en vont. Des actrices comme Eko Kaji, par exemple, décident, ben non, elle ne veut pas faire ça non plus. Et ça fait monter, en fait, des assistants, comme Tanaka, qui est un assistant de Seijun Suzuki, et puis beaucoup d'acteurs et d'actrices qui disent, ben non, nous, on est prêt à faire ça. Et les cinéastes, bon, ben vont, on ne leur demande pas grand-chose, on leur demande, faites une scène érotique toutes les 10 minutes. À partir de là, vous faites ce que vous voulez. Donc évidemment, c'est l'aubaine de faire ben, tout un tas de films, soit du cinéma social, néo-réaliste, soit du cinéma complètement délirant. Tanaka, il va faire la Maison des Perversités, d'après Odogawa Rampo, qui est un film surréaliste, érotique, complètement fou, ou de faire des films plus politiques. Donc voilà, on peut dire qu'il y a une nouvelle vague qui naît à partir des années 70. Et d'ailleurs, Oshima, il était un peu jaloux quand même. Il se disait, ah oui, mais moi, j'ai en fait, c'est un pas que j'ai jamais franchi, en fait. Voilà, il va aller vers la pornographie parce qu'il dit, bon, ben voilà, au moins, je fais un très, très grand pas, hein, je saute à l'intérieur d'un abîme. Mais il se disait, mais même dans le sexe, auparavant, j'ai jamais réalisé vraiment un film érotique. Et c'est vrai, en fait. Hein. Le sexe apparaît dans ces films, mais il n'y a jamais un film qu'on pourrait qualifier de film érotique dans la filmographie d'Oshima.
En fait, par là, Oshima, comment dire, il dit au reste des cinéastes japonais, c'est quand même moi le boss, donc je vais aller plus loin que vous. C'est moi l'enragé du cinéma japonais, donc je vais aller plus loin et plus loin encore que Koji Wakamatsu, puisque je vais faire de la pornographie, quoi.
Oui. Ben, Oshima, bon, quand même, il a été toujours là pour défendre les autres cinéastes. Quand des cinéastes de romans porno, de cinéma pink, se retrouvent avec des procès, il venait témoigner à la barre pour défendre la liberté d'expression. Donc, il a toujours eu un rôle très, très bienveillant, très protecteur, se servant de sa stature. C'était un peu le Godard japonais, hein, tout simplement. Se servant de sa stature, il est venu quand même très, très souvent aider ses collègues. Après, je ne suis pas sûr que l'inverse ait eu lieu, en fait.
Oui,
quand
oui,
il a
oui.
Eu son... Il y a vraiment eu des autres cinéastes qui sont venus le défendre, mais bon.
Oui, parce que ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, il était vu aussi, par exemple, Koji Wakamatsu, vous le disiez tout à l'heure, le regardait de loin, c'est-à-dire que c'était un peu le dandy qui venait s'encanailler, tandis que Wakamatsu, c'était le mec des bas-fonds qui a fait de la prison et qui, lui, était peut-être plus légitime au regard de certains.
Oui, mais bon, après, Wakamatsu et Oshima sont très bien entendus. Wakamatsu disait on était un peu comme l'eau et l'huile, mais finalement, ça a très bien fonctionné entre nous, quoi.
En tout cas, nous, on vous remercie. Alors, vous avez bien fait de le rappeler, et je comptais le faire, que vous avez écrit un ouvrage que nous, on considère comme indispensable, qui est paru au Lézard Noir, qui s'appelle Cérémonie, donc au pluriel, au cœur de l'Empire des Sens. Et puis, vous êtes, Stéphane Duménildo, également grand contributeur à la fois du film de Noboru Tanaka, qui vient de sortir, La Confidentielle, Marché sexuel des filles, et puis du coffret Ultra Collector, donc paru chez Carlotta Film autour de l'Empire des Sens, mais qui réunit également plein de bonus, dont L'Empire de la Passion et aussi La Véritable Histoire d'Abesada. Là, pour le coup, encore un film de Tanaka. Et vous êtes l'auteur du livre qui l'accompagne, La Révolte de la Chair. Et on vous remercie pour cet entretien, Stéphane Duménildo.
Merci à vous.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Domé, dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and The Last, but not the least. Je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.